Audiolib présente L'Empire Ultime, Fils des Brumes, tome 1 de Brandon Sanderson. Traduit de l'anglais par Mélanie Fazi. Lu par Steve Drizen. Pour Bess Anderson, qui lit de la fantaisie depuis bien avant ma naissance, et mérite amplement d'avoir un petit-fils aussi timbré qu'elle. Parfois, je crains de ne pas être le héros pour lequel tout le monde me prend. Les philosophes m'assurent que le moment est venu, que tous les signes sont apparus. Mais je persiste à me demander s'ils ne se sont pas trompés d'homme. Tant de gens dépendent de moi. Ils disent que je tiendrai entre mes mains l'avenir du monde entier. Que penseraient-ils s'ils savaient que leur champion, le héros des siècles, leur sauveur, doute de lui-même? Peut-être n'en serait-il absolument pas choqué. D'une certaine façon, c'est ce qui m'inquiète le plus. Peut-être, au fond de leur cœur, s'interrogent-ils, tout comme moi. Quand ils me regardent, voient-ils un menteur? Prologue. Des cendres tombaient du ciel. Contrarié, Lord Trestingue leva les yeux vers l'horizon rougeoyant de midi, tandis que ses serviteurs s'empressaient d'ouvrir un parasol au-dessus de lui et de son illustre invité. Les chutes de cendres n'avaient rien d'exceptionnel dans l'Empire ultime. Mais Trestingue avait espéré ne pas voir son veston neuf et son gilet rouge, fraîchement livré de l'Utadel par péniche, taché par la suie. Fort heureusement, il n'y avait pas beaucoup de vent. Le parasol suffirait certainement. Trestingue et son invité occupaient un petit patio au sommet d'une colline qui surplombait les champs. Des centaines de personnes travaillaient aux cultures sous les chutes de cendres. Tous leurs efforts trahissaient une certaine mollesse, mais bien entendu, l'esca était ainsi. Les paysans étaient indolents et improductifs par nature. Ils ne se plaignaient pas, bien sûr, ils savaient que c'était inutile. Ils courbaient simplement l'échine, s'affairant avec une apathie silencieuse. Le fouet d'un contremaître de passage les contraindrait bientôt à redoubler d'efforts, mais ils retrouveraient leur langueur après son départ. Trestingue se retourna vers l'invité qui lui tenait compagnie sur la colline.
« On pourrait croire, commenta-t-il, que 1000 années de travaux dans les champs leur auraient appris à se montrer un peu plus efficaces. »
L'obligateur se retourna, haussant un sourcil, comme pour souligner son trait le plus distinctif, les tatouages complexes qui marquaient la peau autour de ses yeux. Ces tatouages de belle taille s'étendaient des sourcils aux ailes du nez. C'était un prélan, un obligateur de très haut rang. Trestingue possédait ses propres obligateurs dans son manoir, mais ce n'étaient que des fonctionnaires mineurs, affichant à peine quelques marques autour des yeux. Cet homme-ci était arrivé de l'Utadel par la même péniche qui avait livré le nouveau costume de Trestingue.
« Vous devriez voir l'esca de la ville, Trestingue, »
lui lança l'obligateur en se retournant pour regarder travailler les paysans. « En réalité, ceux-ci sont plutôt zélés comparés à ceux que l'on croise à l'Utadel. Ici, vous bénéficiez d'un contrôle plus direct sur les vôtres. Combien diriez-vous que vous en perdez par mois ?»«
Oh, une demi-douzaine environ, » répondit Trestingue. « Certains à cause des coups, d'autres de l'épuisement. »«
Des fugitifs ?»
Jamais. Quand j'ai hérité cette terre de mon père, j'ai bien eu quelques fugitifs, mais j'ai fait exécuter leur famille. Les autres se sont vite découragés. Je n'ai jamais compris les hommes qui ont des problèmes avec leur ska. Je trouve ces créatures faciles à contrôler quand on témoigne de la fermeté nécessaire.
L'obligateur à la robe grise hocha la tête en silence. Il paraissait satisfait. Une bonne chose. Les ska n'étaient pas réellement la propriété de Trestingue. Comme tous les autres, ils appartenaient au seigneur maître. Trestingue ne faisait que louer les travailleurs à son dieu, tout comme il payait les services de ses obligateurs. L'obligateur baissa les yeux pour consulter sa montre de gousset, puis les leva vers le soleil. Malgré les chutes de cendres, il brillait ce jour-là d'un vif éclat cramoisi derrière la noirceur voilée du ciel. Trestingue sortit un mouchoir pour s'éponger le front, goûtant l'ombre du parasol qui le protégeait de la chaleur de midi.
« Très bien,